Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous accueillir dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. 2 heures d'histoire rigoureuse et aussi d'astuces mémotechniques pour vous souvenir des notions importantes abordées chaque après-midi dans ce studio.
Je pense que l'anachorète est celui qui vit seul. C'est les cénobites qui
vivent. Il y a un moyen mémotechnique. Je ne sais pas, cénobites, ils étaient plusieurs.
Ah oui.
Anachorète.
Ah oui.
Amis de l'histoire et du bon goût, accueillons Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la multitude d'idées que nous avons chaque jour. Surtout vous, Mathieu. Un sujet tenait la corde. Ça tombe bien. C'est justement celui qu'on a choisi d'aborder cet après-midi. Ils tiennent la corde avec 3 personnages qui l'ont tenu au sens propre. Lui a tenu la corde, une échelle de corde même pour descendre dans les entrailles de la Terre. Je vous raconte Édouard Alfred Martel, le père de la spéléologie moderne. Puis lui, la corde, les cordelettes, il les a utilisées pour attacher ses victimes. Le tueur Dennis Rader, surnommé BTK pour Bind, Torture, Kill. Ligoté, torturé et tué. Un mode opératoire terriblement bien rodé, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, à 99% vrai, d'un duo d'alpinistes qui ont longtemps tenu la corde. Sauf qu'à un moment, ils l'ont coupé.
Oui, Stéphane, que feriez-vous si nous étions coincés dans l'Himalaya, encordés, et qu'étant tombé, je menace de vous entraîner dans ma chute?
Ça...
Couperiez-vous la corde?
Trop peur de perdre l'équilibre.
En tout cas, c'est le dilemme qui s'est présenté à Simon Yates alors que son copain Joe Simpson pendouillait au bout de la corde. Je vous raconte l'histoire assez bouleversante de Joe et Simon tout à l'heure.
Et avec nous, comme chaque jour, nous, celles et ceux qui... pour lesquels nous sommes très attachés aussi.
Là, vous avez cherché une transition avec corde, qui n'était pas venu finalement.
C'est pas venu, oui. Il y a un côté boulet en même temps, on ne sait pas.
Mais c'est exactement ça, c'était un boulet.
Sont nos chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien oui, vos personnages tiennent la corde. Celui dont je vais vous parler, marcher sur la corde. C'est un funambule, une funambule. Autrefois, on appelait les funambules les danseurs ou les danseuses de cordes. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Madame Saki, qui était au 19e l'une des plus célèbres danseuses de cordes, une femme très ravissante qui eut un destin plutôt romanesque.
Avec nous également David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention qui fait notre bonheur aujourd'hui.
Et notre quotidien surtout. Et j'aime bien quand ça, vraiment là pour le coup, c'est un objet du quotidien. C'est le réfrigérateur, tout simplement.
Et puis avec Olivier Pouls, on remonte aux origines d'une recette, d'un plat, d'un mets, d'un ingrédient aujourd'hui.
Une recette, et une recette qu'on voit plus beaucoup, mais qui franchement est très très bonne, c'est le veau Orloff. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Avec du gruyère et de la poitrine de fumée.
Alors, ça, c'est une recette qui a beaucoup évolué, mais moi je vous parlais de la vraie, l'originale, celle qu'on essaie de nous faire passer aujourd'hui.
C'est un peu la retraite de Russie, c'est lié à Napoléon, non ?
Non, c'est pas lié à Napoléon.
Pendant la retraite de Russie, les mecs se faisaient du veau. tiens, on va s'arrêter là.
Non, camarade, qu'est-ce que tu penses ? Moi, faire un peu de veau, dommage.
Orloff était un proche de la cour impériale.
Bien sûr, c'est. Il est pour quelque chose dans la recette, quand même.
Ah oui, quand même.
Ouais,
quand
bien
même.
Sûr.
Enfin, c'est bien Stéphane Bern qui tient la corde dans Bern to be Alive, notre célèbre quiz de culture générale qui vous propose chaque jour de vous tester sur des questions d'histoire si pointues qu'elles sont parfois même aux frontières de la métaphysique.
Est-ce qu'on a vu apparaître le Kiri après le Babybel ?
Si vous visez la grecque d'histoire, vous êtes au bon endroit. Rendez-vous vers 5h moins le quart, mais découvrons tout d'abord notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
À la corde, lui, la tient fermement et a intérêt à ne pas lâcher pour descendre dans les abîmes de la Terre. Stéphane Bern allume sa frontale, qui n'existe pas encore d'ailleurs à l'époque, et entame sa descente à la rencontre de notre premier personnage.
Ouh, où êtes-vous ? On vous cherche partout.
Il est là, Stéphane, devant vous, Édouard Alfred Martel, le fondateur de la spéléologie moderne.
Regardez comme la lumière est belle en ce matin du mercredi 27 juin 1888. Les chaînes de montagnes des Cévennes se dessinent sur un ciel bleu azur. Près de Camprieux, les paysans travaillent au foin quand soudain, on entend du raffut. Tout le village se réunit autour de l'étrange caravane qui fait une entrée plus que remarquée. Il faut dire que c'est rare qu'ils aient de la visite par ici, surtout celle de ces messieurs de Paris, comme ils les appellent en se gaussant. Que veulent-ils ? Explorer Bramabio, Quelle idée! Autant aller au casse-pipe tout de suite. Brama bio, ça veut dire bœuf qui brame en patois languedocien. C'est le bruit étrange que l'on entend près de cet abîme où se jette un ruisseau après avoir traversé le Causse, ce grand plateau calcaire. La légende raconte que le trou engloutit les hommes. Quelques mois plus tôt, un certain Vidal, surnommé La Trouche, a disparu dans le village. Son corps n'ayant jamais été retrouvé, les habitants pensent que l'abîme de Brama bio serait son tombeau. Mais ces aventuriers venus de la capitale ne se découragent pas et à midi ils passent à l'action. Ils vont tenter de passer par la sortie des eaux. Une échelle démontable est dressée pour escalader la première cascade souterraine. « Ça va loin !» crient les trois premiers, partis en reconnaissance. Ils sortent le canot de sauvetage et canne et crochet en main avancent tranquillement jusqu'à ce qu'une autre cascade les oblige à rebrousser chemin. Le lendemain, ils reviennent avec tout le matériel nécessaire à leur épopée souterraine. Échelle de corde pliable et lampe à magnésium. Mais dans des tenues propres à leur époque, mocassins aux pieds et gabardines sur le dos, ne les empêchent pas de réaliser la première traversée de Brama bio sur 1300 mètres et de signer ainsi l'acte de naissance de la spéléologie. C'est un jeune avocat qui n'a même pas 30 ans qui fut à l'origine de l'expédition et notre héros aujourd'hui, Édouard Alfred Martel. Né en juillet 1859 à Pontoise, c'est un petit garçon passionné de géographie qui grandit dans une famille bourgeoise de la région parisienne. Au collège, il obtient le premier prix du concours général de géographie des lycées de Paris. Sur sa table de chevet sont empilés les romans de Jules Verne, lui qui se passionne pour tous ses héros, dont le jeune Axel Lidenbrock qui affronte le monde souterrain dans Voyage au centre de la Terre. Des voyages, la famille Martel en effectue chaque année, quittant Paris pour des horizons plus pittoresques comme les Alpes, la Suisse, les Pyrénées et plus tard l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie ou encore l'Angleterre. Au cours de ses voyages de jeunesse, Édouard Alfred Martel réalise ses premières explorations souterraines. À Chamonix, il visite une grotte sous-glaciaire, la grotte de l'Arveyron. Il a 5 ans. Quand il y retourne quelques années plus tard, à 11 ans à peine, il note dans un carnet les changements morphologiques depuis sa première visite. Déjà, le petit gars a un esprit scientifique aiguisé. De père en fils, les Martel gravissent l'échelle sociale grâce à de brillantes carrières juridiques. Comme son père, Édouard Alfred sera avocat, un métier qui n'entrave pas sa vocation. Aux autres, les arrêts et jurisprudence, à lui, les sommets. Adulte, Martel rejoint le club alpin français de Paris et enchaîne les ascensions. En 1882, il gravit même le Grossglockner en Autriche, qui culmine à 3789 mètres. Mais il redescend sur terre, et bientôt sous terre, après un voyage dans les Causses et les Cévennes, dans le massif central méridional, qui abrite des grottes exceptionnelles. L'obscurité de ces cavités l'interpelle, mais qu'il y aurait de coups de mine à donner et de dangers à courir pour scruter les vaisseaux capillaires et les réservoirs des Causses, pour résoudre le problème de la communication des avants avec les grottes des vallées. Et cependant, quelques téméraires explorateurs arrachera peut-être un jour aux entrailles des plateaux calcaires les secrets de leur hydrographie, écrit-il, mêlant la poésie et la science. À partir de 1888, Martel consacre toutes ses vacances à ses recherches souterraines. Après avoir effectué la traversée de Brama bio, il entreprend la toute première expédition au puits de Padirac, dans la vallée de la Dordogne. À l'écouter, il faut y entrer sans crainte, qui sait quelle surprise vous attend. Des surprises, il peut y en avoir beaucoup en effet. On raconte que des flammes sortent de l'abîme pour défendre un trésor caché par les Anglais à la fin de la guerre de Cent Ans, ou même pire encore, que le diable y a élu domicile. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les paysans font disparaître dans cette bouche béante, de 33 mètres de diamètre tout de même, les carcasses de leurs bêtes mortes. Rien ne peut décourager l'intrépide Martel. Le voilà qui descend un à un les barreaux d'une échelle flottante de cordes qui se balance le long des 75 mètres de la paroi du gouffre. Suivi de près par ses fidèles compagnons d'aventure, Martel écrira plus tard au sujet de la descente dans le gouffre de Padirac. « Nul être humain ne nous a précédés dans ces profondeurs. Nul ne sait où nous allons, ni ce que nous voyons. Rien d'aussi étrangement beau ne s'est jamais présenté à nos yeux. » Ensemble et spontanément, nous nous posons la même question réciproque. Est-ce que nous ne rêvons pas? Et tout porte à croire que non. Celui qu'on surnomme le monsieur qui voyage dans les trous met ainsi au point une science nouvelle. On parle d'abord de grottologie. Bah oui, la science des grottes. Puis c'est le préhistorien Émile Rivière qui invente le mot « spéléologie », le préfixe grec « spélaion » signifiant « l'antre ». Édouard Alfred Martel en consacre l'usage dans ses publications, puis crée la Société de spéléologie en 1895. Parmi ses missions, celle de, je cite, « concourir à l'aménagement, à la mise en valeur des cavités souterraines de toutes sortes, connues ou inconnues, soit naturelles, soit artificielles ». C'est le point de départ du tourisme souterrain. Et l'avocat va alors mettre sa carrière juridique au service de ce combat écologique en faveur de la protection des eaux souterraines, par exemple. Celles-ci sont horriblement sales, rien de bien étonnant vu tout ce qu'on jette dedans. Lui-même en a fait les frais. Un jour, il est tombé malade à cause d'une eau polluée par un cadavre de veau en décomposition. En 1902, il parvient à faire voter une loi, la loi Martel, qui interdit de jeter des bêtes mortes dans les cavités naturelles. Expert international du sous-sol de la planète, le père de la spéléologie étudie les grottes du monde entier. Parfois, il sort le nez de ses trous. Après une visite dans l'immense parc Yosemite en Californie, aux États-Unis, en 1913, Martel publie une étude à propos des parcs nationaux dont il donne une définition précise. Réserve territoriale à limite précise, à l'intérieur desquelles une disposition légale appropriée conserve et protège contre toute destruction, détérioration ou défiguration du fait de l'homme, les composantes naturelles, faune, flore, sites pittoresques et particularités géologiques ou hydrologiques. Désormais, l'État français peut préserver des centaines de sites en France, et cela grâce à un explorateur qui a suivi son instinct pour révéler les faces cachées de la Terre. Édouard Alfred Martel n'avait peur de rien. Descendant dans les gouffres sans savoir nager, il aurait pu se noyer à plusieurs reprises. Son histoire n'a donc tenu qu'à une corde.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Édouard Alfred Martel, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia de Ménibus-Gravier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia de Ménibus-Gravier. Vous êtes PDG du gouffre de Padirac dans le Lot, un site remarquable qui est exploité depuis plus de 130 ans par votre famille. Et un gouffre qu'Édouard Alfred Martel a été le premier à explorer, alors que je le disais, il était considéré comme le trou du diable. Il fallait quoi selon vous pour s'y aventurer en premier? De l'audace ou une bonne dose d'inconscience?
Je dirais un peu de folie, oui, c'est ça, de l'inconscience, parce que les explorations au fond des gouffres ou des grottes étaient souvent assez périlleuses et on défrichait des terres inconnues, il fallait être un peu fou.
Et je disais aussi dans le récit que des flammes sortent de l'abîme pour défendre un trésor caché par les Anglais à la fin de la guerre de Cent Ans. D'où viennent ces légendes? Est-ce qu'elles font encore aujourd'hui partie du mythe et du folklore de ce qu'on raconte autour du gouffre de Padirac?
Oui, je dirais que chaque grotte a sa légende, et probablement parce que les profondeurs de la terre inspirent un peu de terreur et que du coup, les paysans, souvent c'est en zone rurale, les grottes, inventent des mythes et des légendes. Et Padirac en a trois qui lui collent à la peau, si je puis dire, dont une qui est assez charmante, qui est l'histoire de Saint-Martin qui chemine sur le Causse à dos de mulet, qui a des âmes à sauver dans sa besace et qui rencontre Satan, qui lui dit « Saint-Martin, si tu veux sauver ces âmes qui sont dans ta besace, je vais te lancer un défi, je vais frapper le sol avec mon talon et je vais ouvrir les profondeurs de la terre, je vais ouvrir un gouffre géant. Il va te falloir ensuite l'enjamber avec ta mule pour sauver les âmes. » Saint-Martin s'exécute, relève le défi, enjambe le gouffre de Padirac que Satan vient d'ouvrir. Et ainsi, les âmes sont sauvées. Le diable disparaît dans le fond du trou, laissant sur les parois rocheuses, et on peut le voir encore aujourd'hui, une roche noircie qui témoigne que le feu avait suivi Satan dans sa fuite.
Mais c'est quoi alors, en fait? S'il y a des traces noires, c'est vraiment du feu?
Non, c'est pas du feu.
un
géologue vous expliquerait.
Petite,
oui, oui, non, c'est
une,
particularité géologique de la roche.
Est-ce que ces légendes, ça participe de la fascination qu'avait Martel pour ces grottes, ou c'était plus un côté cartésien, spéléologue avant l'heure, du coup?
Je crois qu'il y avait chez Martel, comme chez les spéléologues aujourd'hui, une envie de découvrir l'inconnu. On est aussi au 19e siècle, à l'époque de Martel, c'est l'époque des Charcot, des Shackleton, des Amundsen. C'est un siècle où les explorateurs sont vraiment légion et tous azimuts. Et je pense que Martel a cet ADN et c'est surtout ça qui doit le faire vibrer.
Alors on est vraiment au balbutiement de la spéléologie, puisque vous nous avez dit, Stéphane, qu'il évoluait en mocassin. Alors les mocassins, c'est bien dans nos métiers éventuellement, mais spéléologue, comment il n'y avait aucun matériel en termes de chaussures qui puissent être plus adaptées à descendre dans une cavité comme ça à
l'époque ? Non, en termes de chaussures, non. Et en plus, il y avait un matériel sacrément encombrant, c'est-à-dire que je lisais là, en relisant la biographie de Norbert Casteret sur Martel, que quand Martel passait à la douane, c'était une aventure. Parce qu'il avait un tel barda, si je puis dire, qui l'accompagnait, c'était dément, et les douaniers le regardaient très bizarrement. Il voyageait au fond des gouffres avec un petit bateau pliant qu'il avait inventé, qui s'appelle un Osgood.
Ah oui, parce qu'il nageait pas, de toute façon.
Voilà, donc, et qui tenait dans une caisse, et qu'il fallait déplier à chaque fois pour prouver aux douaniers que c'était rien de malveillant, mais que c'était un petit bateau pliable.
Justement, ce qui est fou, c'est qu'il descendait dans ces grottes sans même savoir nager. C'était un peu inconscient. J'imagine que dans ses expéditions, il a dû se retrouver dans des situations dramatiques, critiques.
Alors, il y en a une très célèbre qui se passe au gouffre de Padirac, où il a son bateau qui se remplit d'eau. Ils sont trois dans l'Osgood. Le bateau se remplit d'eau et là, en une seconde, il chavire. Donc là, Martel nous fait des récits absolument terrifiants et il découvre ce qu'il appelle le noir profond. C'est-à-dire, vous imaginez, à 103 mètres sous terre, vous êtes dans le noir profond, il n'y a pas un bruit et vous êtes dans une eau qui est à 12 degrés. Donc là, terreur, comment vais-je sortir de là ? Parce qu'il faut 7 heures de progression, par exemple, pour aller dans la salle où il a chaviré. Donc, Martel était quelqu'un de très prévoyant, outre d'être un grand scientifique, et il avait toujours anticipé les mauvais coups. Et là, par exemple, il avait dans son veston deux petites boîtes de métal, c'était ce qu'il appelait sa réserve secrète, avec à l'intérieur des allumettes emballées dans de la toile cirée. Et donc, c'est ce qui a pu, lors de ce chavirage, le sauver, puisque par chance, et presque miraculeusement, il a pu faire fonctionner une allumette. Une fois remonté à la surface, ayant eu très peur, il tente les autres allumettes. Et là, ça ne marche pas, elles ne s'allument pas. Donc, il doit son salut vraiment à la chance.
Qu'est-ce qu'il y a de si unique dans ce gouffre ?
En fait, j'ai l'habitude de dire que ce gouffre de Padirac, c'est la quintessence de tout ce que l'on peut trouver en matière de beauté et merveilles souterraines. C'est-à-dire que c'est à la fois un gouffre, à la fois une grotte, à la fois une rivière souterraine avec des concrétions majestueuses, une salle qui fait 95 mètres de hauteur. On pourrait rentrer Notre-Dame de Paris dans la salle du Grand Dôme. Donc oui, il a été subjugué quand il a fait cette découverte.
Donc effectivement, il faut préciser à ceux qui ne connaissent pas du tout cet endroit, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de traces de feu, de traces de vie. C'est juste majestueux, géologiquement parlant.
À part la trace de vie de Satan qui a disparu au fond des profondeurs, il n'y a rien. Il n'y a aucune peinture.
Norbert Casteret, qui a dédié un ouvrage à Édouard Alfred Martel en 1943, explique que même si Martel n'a pas inventé la spéléologie, il fut le premier à l'étudier méthodiquement, systématiquement et à la codifier. Quelle est finalement la définition de la spéléologie telle que Martel l'a définie ?
Alors, Martel n'est pas l'inventeur de la spéléologie. Avant lui, les hommes s'étaient aventurés dans les cavités. On en trouve un témoignage avec effectivement les peintures rupestres. Il y avait des chercheurs de salpêtre aussi qui descendaient dans la profondeur de la Terre. Mais Martel est le premier scientifique à avoir vraiment travaillé la spéléologie de façon différente. Non pas au sens d'une exploration, mais au sens vraiment d'une science. Donc, ça se traduit par en fait une cartographie très très minutieuse de l'ensemble des cavités qu'il a pu découvrir. Il a laissé derrière lui des dizaines et des centaines de cartes très précises. Il est le premier à utiliser les légendes, etc. Enfin, il en fait vraiment quelque chose de scientifique. Également, c'est l'inventeur de la photographie souterraine, on le sait moins. C'est lui le premier qui a fait des photographies de ce qu'on voit sous terre, de manière à témoigner de ce que l'on pouvait voir. Il a aussi été le précurseur en matière de météorologie souterraine.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours imaginer qu'il y a une température constante sous terre. C'est plus ou moins vrai. 12-13 degrés, mais en vérité, ça varie d'un degré, de 12 à 13 degrés, en fonction de la température extérieure, etc. Et Martel a fait les premières mesures très précises de température et de météorologie souterraine.
Mais alors, si Martel a créé quand même la spéléologie moderne, je crois qu'on peut le dire, comment ça se fait que son nom ne soit pas plus connu que ça aujourd'hui ?
Alors Martel, il a une épouse qui s'appelle Aline Delaunay, qui l'accompagne partout. D'ailleurs, j'ai retrouvé une petite citation amusante. Aline Delaunay dit « Je me contentais de l'attendre à la sortie des gouffres en admirant le recto des paysages, alors qu'il en découvrait le verso dans les entrailles de la terre. » C'est mignon. Aline Delaunay et Martel n'ont jamais eu d'enfants, parce que Martel l'emmenait partout, mais il l'emmenait aussi faire des choses assez incroyables. Par exemple, aller en montgolfière à l'époque. Et du coup, un jour, ils se sont crachés en montgolfière. Elle était enceinte, elle a perdu l'enfant. Ils n'ont jamais donc pu avoir d'autres enfants. Et ainsi, peu de gens se sont attachés à témoigner
entretenir
entretenir la mémoire de Martel.
Je rappelle que vous dirigez le site de Padirac, dont votre famille s'occupe depuis 5 générations. Mmh. Comment c'est arrivé ? C'est-à-dire, votre famille possédait la terre ou alors est-ce que vous attendiez un martel à la sortie de... À la sortie de son trou. Et...
Non, c'est une histoire beaucoup plus romanesque. C'est l'histoire d'un fiacre à Paris dans les années 1890. J'ai un ancêtre, un arrière-arrière-grand-père irlandais d'origine, brasseur, de famille de brasseurs, Beamish Beer, qui prend ce fiacre et qui trouve une mallette dans le fiacre. Le passager précédent qui avait oublié cette mallette était Édouard Alfred Martel. Et dans cette mallette, il y avait les plans de traçage de toute la fameuse cartographie du gouffre de Padirac. Donc Beamish prend contact avec Martel et lui dit « J'ai trouvé une mallette qui semble vous appartenir, de quoi s'agit-il » Et de fil en aiguille, ils ont créé la société ensemble. Et puis mon ancêtre a financé la mise en exploitation de ce site incroyable.
Pour finir, avez-vous toujours aujourd'hui des spéléologues, en tout cas des scientifiques qui viennent, qui vous demandent l'autorisation d'aller explorer Padirac? Ou simplement c'est réservé au public maintenant un chacun.
Alors aujourd'hui, on fait visiter au grand public une partie seulement du réseau souterrain de Padirac et il y a 40 km de galeries qui ont été explorées jusqu'à ce jour et qui continuent d'être explorées.
Donc,
Il y a encore des zones non explorées, c'est-à-dire des affluents qui rejoignent la rivière principale. C'est le plus grand réseau souterrain d'Europe. Donc on autorise des expéditions scientifiques régulièrement avec des gens de très haut niveau, parce que c'est de la spéléoplongée, donc c'est quelque chose d'assez sportif.
J'ai une dernière question, c'est une curiosité notariale.
Qu'est-ce que vous voulez acheter quand on est vous ne pouvez pas tout acheter, non, Stéphane, vous pouvez pas acheter le gouffre de Padirac.
Quand on est propriétaire du gouffre de Padirac, on est propriétaire de quoi parce qu'il y a des gens qui possèdent la terre au-dessus, j'imagine.
Alors, on peut être propriétaire du fond et du tréfond, ou juste du fond.
Oui.
Voilà. Et sur certaines parcelles, on est propriétaire du fond et du tréfond. Sur d'autres, on est propriétaire du fond, sur tout le trajet de la visite. Et c'est Martel, le juriste génial, qui avait monté à l'époque le rachat des parcelles auprès des propriétaires locaux.
Mais ça existait à l'époque, l'idée d'acheter des tréfonds.
Du fond et du tréfond, c'est très ancien.
Ça, c'est très ancien,
c'est
d'accord.
Très ancien. Ah, d'accord. Ouais.
Vous avez peut-être creusé sous chez vous. Là.
Écoutez, je vais voir ce que j'y trouve.
Alors, si vous découvrez une grotte sous vos pieds chez vous, elle est à vous, sauf... Si vous avez des matières précieuses, de l'or, du pétrole...
Ah bah si j'ai de l'or, je ne dis à personne.
Vous faites juste ouvrir votre cavité pour visiter.
Oui, je vous en prie, Stéphane. Je fais ouvrir ma cavité.
Non,
je
l'ai.
On se souvient tout à l'heure. Plutôt, Stéphane.
Merci, Laetitia Ménibus Gravier, de nous avoir éclairé sur ce personnage qui n'avait pas peur de se jeter dans le vide. Je rappelle que vous gérez le site remarquable du gouffre de Padirac dans le Lot. J'invite tous nos auditeurs qui n'y sont pas allés à s'y rendre, évidemment, et c'est vraiment un endroit magique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais nous embobiner. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, si bobine il y a, elle est de corde. Puisque vous nous racontez Madame Sakine, danseuse de corde, à la descendance surprenante.
Eh oui. Vous savez que l'art du funambulisme est très ancien. C'est une discipline qui remonterait à l'Antiquité. Et l'étymologie du mot lui-même est latine, funambulus. Ça vient de funis, la corde, et ambulare,
marcher.
Oh bravo Mathieu, bravo, on ne vous apprend rien. Aidé ou non d'un balancier, le funambule fait des pas de danse sur une corde tendue au-dessus du sol. Et c'est un art, alors ça je l'ai découvert à la faveur de mes lectures, qui a connu une vogue incroyable au XVIIIe et XIXe siècle. Les gens en étaient fous. Aujourd'hui, on regarde parfois quand un funambule passe, fait un long trajet entre deux buildings au-dessus des chutes du Niagara, mais à l'époque, les gens adoraient ça. Et deux danseuses de cordes ont été particulièrement connues sous le Premier Empire et la Restauration. Elles s'appelaient Mademoiselle Malaga et Madame Saki. Et voilà ce qu'en dit l'historien Victor Fournel. Madame Saki jouait à elle seule sur la corde raide des mimodrames où elle représentait le passage du Mont-Saint-Bernard, la bataille de Wagram, la prise de Saragosse. Ben oui, je vous vois,
vos regards.
Alors tout ça, comment faisait-on la bataille de Wagram sur un fil? Moi, je, J'aurais bien aimé voir ça. Je dois dire que je...
Comment la différencier de celle de Saragosse?
Bah, tout à fait. À mon avis, par le costume. Mais en tout cas, oui. ça nous laisse un peu pantois, ces trucs-là. En tout cas, elle avait un succès fou, cette femme. À Liège, en 1815, elle se produit sous le titre de première artiste funambule de Sa Majesté le Roi Louis XVIII, directrice des fêtes et ascensions du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, les fêtes et ascensions du gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'elle monte sur un fil? Est-ce que notre ministre de la Culture aujourd'hui serait responsable des fêtes et ascensions du gouvernement? Alors bref, en tout cas, cette même année 1815, après Waterloo, les troupes russes d'Alexandre II occupent Paris et parmi les officiers, il y a un cosaque de 49 ans, assez fringant, qui s'appelle Piotr Moussin Pouchkine. Et il est le cousin du poète Pouchkine. Oh. Et donc, il profite à fond de la vie parisienne. Il fréquente assidûment les théâtres, les cafés, boulevard du Temple, où se produisent une foule de funambules, chanteurs, danseurs, acrobates, dont Madame Saki, qui joue à elle seule sur la corde raide. Je le disais à l'instant, les commentateurs de l'époque disent des mimodrames époustouflants. Non, vraiment, on demande à voir. Alors, qui est-elle cette dame? Elle est née Marguerite Antoinette Lalanne à Agde le 26 février 1786. Ses parents appartenaient à la troupe des grands danseurs du roi. C'est là qu'elle a fait ses débuts. Elle faisait un numéro, un petit spectacle de funambule qui s'appelait la Petite Basquaise. Et elle a pris son métier à la foire de Tours. Car c'est ce que j'ai découvert également à l'occasion. C'est que c'est à l'époque, c'est à Tours qui était le grand rendez-vous en France des forains, vous le saviez peut-être. Et c'est là qu'elle apprend l'art de danser sur une corde. En 1805, elle épouse un certain Père Saki. Elle devient Madame Saki. En 1806, elle enflamme les spectateurs du jardin Tivoli. Vraiment, c'est une vedette sous le Premier Empire. Mais revenions à nos cosaques. Le capitaine Moussin Pouchkine, qui est subjugué par cette ravissante femme, qui accessoirement a 20 ans de moins que lui, il la trouve très jolie. Et elle, lui, parle, il la courtise, mais il parle parfaitement français, comme toute l'aristocratie russe à l'époque. Donc, il n'y a pas simplement... On peut faire plus que de se plaire physiquement. Il a dû lui faire quand même un peu la conversation, en tout cas. Toujours est-il que de cette brève idylle naît une fille le 20 janvier 1816. La famille Moussin Pouchkine étouffe l'affaire en donnant un peu d'argent à Madame Saki. Et comme ça, le père part avec la fille, ce qui est quand même un truc assez étonnant. Oui. Et elle, contre rémunération, elle accepte de renoncer à vie à revoir sa fille. Comme elle est très jeune, elle n'avait peut-être pas envie non plus de s'encombrer d'un nourrisson, surtout sur un fil pour faire la bataille de Saragosse. Bref, la fille part en Russie. Madame Saki, elle va continuer à se produire en Angleterre, en Inde. Elle va créer un moment un cabaret boulevard du Temple qui va faire faillite. Et elle continuera jusqu'en 1861 à être danseuse de cordes. Et elle meurt dans sa 80e année, le 21 janvier 1866 à Neuilly. Si vous voulez vous recueillir sur la tombe de la belle danseuse de cordes, Madame Saki, c'est au cimetière du Père Lachaise. Et la fille dans tout ça, Stéphane,
oui,
je le vois,
ben oui,
connaît déjà son destin.
Ah bon,
elle est absolument ravissante. Elle s'appelle Yekaterina Petrovna Moussin Pouchkine. Elle devient la maîtresse du tsar Nicolas Ier qui lui fait un enfant. Et comme il faut cacher ce scandale, on lui fait épouser le prince Troubetskoï et Sophie Troubetskoï, fille naturelle du tsar Nicolas Ier, petite fille de Madame Saki, danseuse de cordes du faubourg du Temple, épousera le duc de Morny, c'est-à-dire le demi-frère de Napoléon III. Puis devenue veuve, là vous allez renouer le fil, elle deviendra duchesse de Sesto. Et qui est-elle? Elle est la mère de la fameuse Mathilde de Morny, qu'on appelait Max, la grande amie et maîtresse de Colette. Donc voilà, qui était Madame Saki, la danseuse funambule, aux jarrets souples, aux pieds d'acier, qui vient, s'en va, revient, recule, en inclinant son balancier. Saltimbanque de la foire de Tours et grand-mère de la fille du tsar.
Merci beaucoup Clémentine.
Clémentine, vous êtes aussi funambule à votre manière. Nous allons marcher sur un fil. Enfin, vous, moi, je vais poser les questions. L'un des deux tombera de la corde, mais lequel? C'est le quiz dans un instant.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz et attention, de très vilaines rumeurs circulent sur le net. Rumeurs selon lesquelles Stéphane Bern serait parfois aidé par la régie qui lui soufflerait la bonne réponse dans le casque. Tout ça n'est évidemment que pur fantasme. Jamais quelqu'un d'aussi intègre que Stéphane n'accepterait qu'on lui souffle les bonnes réponses et dirait...
Ah, bon, je vais faire semblant d'avoir compris.
Non, c'est absurde. Jour à Bern to be là. Stéphane, la première question est pour vous. Vous qui êtes gourmand, et pas forcément que de nourriture, voilà une question pour vous. Le Nyo Taimori est une pratique japonaise bien connue consistant à manger des sushis sur le corps d'une femme nue. Eh bien, elle date de la fameuse époque Edo, dont nous avons déjà parlé, qui commence en 1603. Vrai ou faux?
j'en peux plus.
Vous pratiquez pas le week-end?
Non, non.
Non, bah ça met du piment.
À mon avis, c'est quelque chose de tout à fait différent.
Nyotamori.
Oui, le Nyotamori. Ça doit être une façon d'égorger les... Non, je dirais non. Je n'y crois pas du tout à votre truc.
Vous ne voyez pas ça comme un hobby qu'on pourra avoir le week-end?
Non, j'y crois pas.
Vous avez...
Eh bien...
perdu.
Vous avez tort, Stéphane, puisque le Nyotamori est exactement ce que j'ai raconté, c'est-à-dire une pratique japonaise connue qui consiste à manger des sushis sur le corps d'une femme nue. Elle est même devenue très populaire dans l'époque Edo, donc hier les samouraïs, aujourd'hui les yakuza. La pratique perdure, figurez-vous. En revanche, en Chine, ça n'existe plus, hein, ça a été interdit depuis 2005, tant pour des raisons d'hygiène que des raisons morales. Parfois, les deux se rejoignent. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. La guerre, c'est moche, mais parfois elle a un joli nom. Un conflit a opposé l'Inde au Pakistan en 1999. C'était la guerre des nénuphars. Vrai ou faux?
Oh, il y a bien eu la guerre des roses. Pourquoi pas la guerre des nénuphars? Et pourquoi la guerre des roses, on comprend bien, mais pourquoi des nénuphars? Il s'agissait de s'approprier un fleuve, un lac. Est-ce que c'est un conflit territorial entre le Pakistan,
l'Inde et le Pakistan?
Il y a beaucoup de conflits là-bas.
Mais des nénuphars? Pourquoi des nénuphars? Non, je veux dire non.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse. Il y a bien eu cette guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1999. C'était la guerre des glaciers. Par contre, il y a bien eu la guerre des nénuphars, une guerre qui a eu lieu en France au début des années 90. On a surnommé ainsi une réforme de l'orthographe qui a fait couler beaucoup d'encre. Nénuphar pouvait dès lors s'écrire avec un F.
Voilà.
PH. Il y a eu des débats enflammés à l'époque. Hein. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'ONU est né un 4 octobre 1945. En 1960, De Gaulle l'a surnommé le machin. Aujourd'hui, si vous naissez au siège de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a bien failli m'arriver, vous pouvez choisir la nationalité de votre choix. Vrai ou faux?
Faudrait naître dans un des couloirs de l'ONU à New York.
Ils sont grands à New York ou à Genève, ou à Addis Abeba.
Ce qui voudrait dire que ça a le statut d'extraterritorialité par rapport au pays dans lequel on est.
Ou enfin, c'est pas parce qu'on a l'ambassade des États-Unis à Moscou qu'on est pour autant américain, si?
Si.
Si.
Bah je vous donne un indice, si.
Mais
si.
Ce que je trouve curieux, c'est qu'on puisse choisir. Bon, alors je voudrais être résident...
C'est tout l'objet de ma question. Est-ce qu'on peut choisir parmi...
Ça serait prodigieux, ça doit se produire très très rarement. C'est amusant comme idée, mais... à ce moment-là, c'est peut-être le droit du sang qui joue, pas le droit du sol. Ça paraît incroyable de pouvoir choisir.
Ça paraît incroyable de choisir. Parce que les Américains accordent pas facilement...
Cela dit, si vous naissez sur le sol américain, vous êtes le droit du sol aux États-Unis.
Voyez-vous, si vous naissez dans les couloirs de l'ONU à Genève, je vois pas pourquoi les Américains accepteraient que vous devinciez américain. Oui.
Je suis né à Genève, dans le couloir de l'ONU, donc je veux la nationalité américaine.
Oui,
c'est votre réponse. Non, c'est pas possible.
Ça me paraît pas possible.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, même si en fait ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. On peut tout à fait choisir, mais pas n'importe quelle nationalité. On ne peut pas choisir, par exemple, d'être palestinien. L'État de Palestine est reconnu comme un État observateur non membre de l'ONU. On peut choisir n'importe lequel des 193 pays qui siègent à l'ONU.
Incroyable.
Donc, si vous dites aux Ricains, hop, je suis Ricain, ils peuvent rien dire, vous êtes né dans les couloirs de l'ONU. Question numéro 4.
C'est extraordinaire cette
histoire-là. Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ça laisse songeur, il faut aller accoucher à Genève.
C'est un conseil
qu'on peut
donner à nos éditrices. Question numéro 4, Clémentine. On a tous joué une fois dans notre vie au moins au Monopoly. Ne comptez pas sur moi pour vous demander si l'aviateur Louis Blériot aurait pu jouer aussi. Il aurait pu. Le jeu date de 1935 et le pilote français est mort l'année suivante. Voici ma question. Ce mois-ci est sortie une nouvelle version du Monopoly. Une version spéciale inégalité, où si on est une femme, on a un salaire moins important. Vrai ou faux?
Écoutez, ça ne serait que justice, ça serait amusant, puisque dans l'esprit d'Elizabeth Maggie, le Landlord Game était un jeu destiné à dénoncer l'accaparement par les riches de la terre. Donc à l'origine, c'est vraiment un jeu militant. Et que des féministes aient pu le reprendre aujourd'hui pour dénoncer un certain nombre d'inégalités entre hommes et femmes et d'inégalités sociales, je pense qu'il y a eu tellement de formules du Monopoly, pourquoi pas celle-là? Ça ne me paraît pas aberrant, donc je vais dire oui.
Vous dites oui.
Vous avez
Vous avez gagné et c'est regrettable. Bravo. Parce qu'on vient de me signaler que cette question ne vaut pas de points. Cette question ne compte pas, mais
donc
c'est
maintenant
vrai.
Maintenant, on est à égalité.
C'est vrai, écoutez, on choisit.
Ah oui, quand c'est à vous que ça arrive, Stéphane, là, tout de suite,
bah,
c'est...
Une fois pour une fois, ça me fait un effet bizarre, oui.
Mais écoutez, c'est une bonne idée cadeau, ce Monopoly. On choisit un personnage au départ. Si on est une femme, on touche moins en salaire. Si on est handicapé, on ne peut pas passer par les gares. Et si on est un homme blanc, on commence la partie avec des terrains gagnés en héritage. C'est un jeu développé avec l'Observatoire des inégalités. Belle initiative. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. L'histoire, c'est aussi le Festival de Cannes, mais c'est aussi le King Abdulaziz Camel Festival, un événement annuel qui a lieu depuis plusieurs années maintenant en Arabie Saoudite sous le haut patronage royal. Le but, promouvoir le chameau avec un concours de beauté. Il y a eu un mini-drame en décembre dernier, lequel Le chameau vainqueur... Il va falloir aller très vite, Stéphane, parce que visiblement, on a l'idée de la réponse. Le chameau vainqueur était en fait une chamelle, ce que le règlement interdisait. Il y a eu plusieurs cas de Covid chez les camélidés, l'épreuve a été annulée, ou plusieurs chameaux...
Attends, mais oui, mais...
Je l'ai dit avant, c'est la 3.
On n'a pas le droit de donner la réponse avant que j'ai fini.
Oui.
Ça fait partie.
Oh là là,
Ou plusieurs chameaux avaient reçu du botox.
3.
Victoire de Stéphane.
Oh non. Alors là, non. Alors là, je fais la grève de la faim dans le studio. Non.
Non, vous étiez disqualifié. Puisque vous avez répondu avant, vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Oui, donc c'est Stéphane qui l'emporte avec cette question sur le botox des camélidés.
On va écouter nos auditeurs jugeront.
Ainsi va l'histoire du monde. Victoire de Stéphane Bern.
Mais non, je la partage avec Clémentine, volontiers.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui tient la corde pour être désignée émission d'histoire la plus drôle de tous les temps.
Oui, d'où l'idée de notre thème aujourd'hui, ces personnages de l'histoire qui ont tenu la corde au sens propre.
Oui, absolument Mathieu, après Édouard Alfred Martel qui, grâce à une corde et à ses mocassins aussi, a pu plonger dans les entrailles de la Terre, je vous raconte Dennis Rader qui a tenu une corde aussi, mais elle avait une autre fonction. Son surnom devrait vous aider à mieux comprendre qui il est. BTK, Bind, Torture, Kill. Je traduis, ligoter, torturer, tuer. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un tandem d'alpinistes confronté à une question fatidique. Coupé, hors note coupée.
Stéphane, aujourd'hui nous prendrons la direction du Pérou.
Ah oui.
Et oui, pour une fois, notre son Amérique du Sud fonctionne. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis assez ému. À la rencontre de deux alpinistes qui étaient très copains en partant, un peu moins copain après, car oui, l'un étant tombé dans le vide et l'autre étant encordé à lui et à deux doigts de perdre justement ses doigts engourdis, il a été contraint et forcé d'annoncer à son copain qui pendouillait 50 mètres en dessous.
Ah, ça va couper, chérie.
Je vous raconte Joe Simpson et Simon Yates, histoire que j'ai baptisée Le copain d'abord.
Sans oublier. On en reste. On est si et si, je puis dire. Sans oublier nos chroniques avec David Castel-Lopez qui nous raconte les origines. Bah, d'une invention qui fait notre bonheur au quotidien, le réfrigérateur.
Le réfrigérateur, ouais, je vous dirais tout d'où ça vient, comment ça... Et comment on fait du froid artificiellement aussi, c'est pas facile.
Attendez, c'est le Frigidaire qui était une marque qui est devenue...
Oui, exactement.
Non, c'est pas l'inverse. C'est pas
une marque américaine d'ailleurs, et pas, qui a l'air française.
Ah oui, c'est
américaine,
vrai.
C'était un modèle de General Electric.
Ouais. Un jour, vous nous parlerez des Cadillac, parce que est-ce que Cadillac, ça vient du petit village du sud-ouest, ça s'appelle Cadillac, peut-être, probablement, je pense, hein, ça doit être un...
Je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais.
Certainement.
Et la limousine, alors, est-ce qu'elle vient du Limousin?
Mais certainement.
Berlin vient de Berlin.
Et ben voilà.
Ah oui.
Oh là là, on a avancé tellement vite là.
Ça fuse dans ce sommaire, ça fuse.
Et avec Olivier Bouls, eh bien, nous remonterons aux origines d'une recette qu'on utilise moins, mais bon, c'est assez agréable.
Qui n'a pas besoin de réfrigérateur particulièrement, mais plutôt d'un four.
C'est la recette, le veau Orloff, c'est ça?
Le veau Orloff, je vous raconterai l'histoire de cette recette délicieuse au demeurant.
C'est la recette des soldats de Napoléon lors de la retraite de Russie, que Stéphane tout à l'heure, en traversant la Bérésina. On ne se souvient pas, un petit veau Orloff, on a le temps, on n'a pas le temps.
De l'aristocratie russe.
Vous imaginez qu'ils ont mis une dérouillée aux soldats de Napoléon tout en cuisinant du veau. C'est quand même vraiment très fort.
Enfin, c'est un moment de l'émission que j'avais imaginé initialement pour humilier David et Olivier, et on peut le dire, je crois, à l'issue de ma 74e défaite d'affilée hier dans le quiz, que l'arroseur est arrosé, il est même trempé. La lutte finale, ce sera heureusement en toute fin d'émission. Pour l'heure, partons à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h, 18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si vous regardez la série Mindhunter sur Netflix, alors son nom vous dit déjà quelque chose. Un fétichiste de la corde, ou plutôt des cordelettes, qu'il utilisait dans son mode opératoire. Stéphane Bern nous raconte le tueur Dennis Rader, alias BTK, trois lettres qui ont fait trembler une petite ville du Kansas pendant plus de 30 ans.
Nous sommes le 15 janvier 1974 dans un quartier paisible de la banlieue de Wichita, au Kansas. Un hurlement d'effroi retentit.
Ça m'a fait peur, là, vraiment.
Il vient du 803 rue North Edgemoor. C'est la maison Otero. Charlie, 15 ans, vient de rentrer de l'école. À peine a-t-il posé son sac qu'il se précipite retrouver son frère et sa sœur dans la chambre des parents. Face à lui, une scène abominable l'attend. Son père, Joseph, est allongé face contre terre. Sa mère Julie est sur le lit. Ils sont attachés, bâillonnés, avec des sacs plastiques sur la tête, bien serrés, avec des cordelettes. Charlie fonce prévenir les voisins qui appellent la police. Les agents arrivent dans la foulée. Comme si ça ne suffisait pas, ils découvrent le fils, Joseph Junior, 9 ans, mort dans sa chambre, la tête dans un sac plastique. Et dans la cave, Joséphine, 11 ans, pendue à un tuyau. C'est un véritable massacre. Mais que s'est-il passé? La montre du père a disparu. Une telle tuerie pour une montre? Non, ça ne tourne pas rond. Les voisins témoignent. C'est un homme grand, blanc et maigre. C'est un petit noir, plutôt gros. Les témoignages divergent. Le portrait robot est infaisable. Une tache de sang est retrouvée sur la scène du crime. Mais l'ADN n'existe pas encore. On apprend seulement que le meurtrier est de groupe sanguin O. Voilà une information qui ne sert strictement à rien. Sur la cuisse de Joséphine, on trouve une trace de sperme. Ce qui fait dire au chef de la police... La manière dont les membres de la famille ont été tués indique un fantasme de la part de l'assaillant. Je vous épargne les 30 ans d'une enquête laborieuse en vous révélant déjà le coupable. Les apparences sont trompeuses. Il s'agit d'un père de famille classique, du citoyen ordinaire auquel on ne prête pas attention, mais qui cache en réalité un sadique au délire pervers et narcissique, Dennis Rader, surnommé BTK. Né en mars 1945 dans l'État de Kansas, rien ne prédestinait cet enfant timide à l'école à devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Rien. Mais quand même des pulsions sexuelles bizarres ressenties dès l'enfance. L'image de femme sans défense à qui il pourrait faire du mal l'excite. Sa cible rêvée, Annette Funicello, la star du Mickey Mouse Club. Sa première victime, un chat. Qu'il tue en le suspendant par le cou. L'acte de pendre était sexuellement excitant pour moi. Les éléments consistant à être liés ou à faire un effort avec la corde ou le nœud coulant autour du cou, les jambes attachées, l'impossibilité de s'échapper. Pour ma propre satisfaction...
Ce qui est inquiétant, Stéphane, c'est qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que plus on rentre dans le gore, plus vous avez un rictus d'excitation qui, franchement, moi, personnellement, me met mal à l'aise et m'inquiète.
C'est pas de l'excitation, rassurez-vous.
Qu'est-ce que c'est ?
Je suis tellement abasourdi par ce qu'on raconte.
Bien sûr.
Pour ma propre satisfaction, dit-il, je me suis pendu au point de m'évanouir, avouera le psychopathe. À la fac qu'il intègre en 1965, Rader commence à suivre les filles. Ses premières relations sexuelles, il les a avec des prostituées au cours de ses 4 ans de service dans l'armée de l'air. Puis il retourne à Wichita où il épouse une fille de la région et massacre la famille Otero, sans laisser aucune trace, ou presque. Lorsqu'un déséquilibré est arrêté et avoue tout à sa place, Dennis Rader est vexé qu'on lui vole la vedette. Alors, il appelle le journal local, le Wichita Eagle, et révèle qu'une lettre est cachée dans un livre à la bibliothèque municipale. La police la trouve. Je vous écris pour épargner aux contribuables les coups d'une longue et inutile enquête. C'est moi qui ai fait le coup, et je l'ai fait tout seul, assène fièrement l'assassin. Rader donne des détails que seule la police connaît, notamment comment il a fait les nœuds des cordes qui ont servi à ligoter les parents. Le narcissique achève sa missive sur une phrase terrible « J'ai un monstre en moi. Et je ne sais pas comment il est entré dans ma tête. Je ne peux pas l'arrêter. Peut-être que vous le pourrez, moi je n'y arrive pas. » Avant de signer BTK, trois lettres qui désignent son modus operandi, B comme bind, attaché, T comme torture, torturé, et K comme kill, tué. Mais il faut varier les plaisirs. Ce n'est pas par étranglement, mais de 11 coups de couteau que BTK tue Catherine Bright, 4 mois après ses premières victimes. Bilan, 5 morts, suivi étrangement de 3 ans de silence. C'est ensuite avec le meurtre de Shirley Railford que l'assassin fait son retour avec la méthode qu'il affectionne tout particulièrement. En enlevant le sac plastique qui renferme la tête de la victime, la police trouve une cordelette, la cordelette d'un store vénitien, la même que celle retrouvée sur les cadavres des Otero. L'année suivante, le meurtre de Nancy Fox galvanise tant Dennis Rader que celui-ci appelle la police depuis une cabine téléphonique pour raconter ce qu'il vient de faire. Deux mois plus tard, dans une lettre envoyée à une chaîne de télé sur laquelle il a dessiné des nœuds coulants, il écrit « Combien dois-je tuer de personnes pour qu'on parle de moi dans les journaux nationaux ?» Il révèle avoir déjà trouvé sa prochaine victime. C'est donc le moment que choisit la police pour annoncer officiellement qu'un serial killer sévit à Wichita. La population est terrorisée, les ventes d'armes explosent. Dennis Rader, quant à lui, est bien occupé. Il travaille désormais dans une société qui installe des alarmes. Dans les bureaux de la police, c'est le branle-bas de combat. Un groupe ne travaille désormais plus que sur BTK. Ce sont les Ghostbusters, les chasseurs de fantômes. Un nom tout à fait approprié car Dennis Rader s'évapore encore. Il change de job et devient agent de fourrière. Ses voisins racontent qu'il fait régner la terreur dans le quartier allant jusqu'à mesurer l'herbe des gazons pour pouvoir mettre des contraventions. Il fera sa dernière victime en 1991, puis pendant des années, on n'entend plus parler de BTK. En 2004, le Wichita Eagle publie un grand dossier pour le 30e anniversaire du massacre de la famille Otero. Le tueur en série, qui n'est pas mort, se réveille et se met à communiquer massivement avec la police. C'est là qu'il commet des erreurs. Pensant avoir créé un lien de confiance avec les forces de l'ordre au fil des années, il leur pose un jour la question fatidique. Est-il possible de tracer une disquette informatique? La réponse est oui. Mais celle qu'on donne à Dennis Rader, évidemment, c'est non. Résultat des courses, il envoie une disquette que les spécialistes parviennent à retracer grâce aux métadonnées. Après plus de 30 ans d'investigation, la police met enfin la main sur l'étrangleur de Wichita. Il est à moitié chauve, un peu barbu, porte des lunettes de comptable et vient d'être élu président de sa congrégation religieuse, l'Église luthérienne du Christ. C'est le choc pour tout le monde. Sa femme demande le divorce illico. Quelle sentence pour le tueur en série. Les meurtres ont été commis avant 1994 et la peine de mort n'avait pas encore été instaurée au Kansas. Jugé en 2005, Dennis Rader alias BTK est condamné à une peine de prison de 10 fois la perpétuité qu'il est actuellement en train de purger. Cette fois, c'est la police qui l'a serré, mais sans corde, pour son plus grand regret.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Dennis Rader, nous sommes avec une journaliste qui a plongé dans la tête des tueurs. Bonjour Véronique Chalmet.
Bonjour.
Bonjour Véronique Chalmet, vous êtes écrivaine et journaliste spécialisée en criminologie et psychologie et auteure de « Dans la tête des tueurs » paru aux éditions Hors Collection. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Dennis Rader?
Dennis Rader, c'est un petit peu l'archétype du tueur en série dans la mesure où il a une double vie. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on ne pourrait pas soupçonner a priori. C'est effectivement un bon père de famille, comme vous l'avez dit. Il est aussi président de sa paroisse. Il est chef scout. Il apprend à faire des nœuds. Bref, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon. Il a également une fille, un fils, qu'il éduque très très bien. Et d'ailleurs, ils seront complètement effondrés quand ils apprendront qui est leur père véritablement, parce qu'ils ne l'avaient pas du tout soupçonné, quoi.
Alors, ce Dennis Rader, ce qu'il explique, lui, c'est qu'il a un monstre, en fait, en lui, qu'il ne peut pas arrêter, qu'il ne peut pas contrôler. On peut dire qu'il est psychopathe. Et si on peut le dire, qu'est-ce que c'est? Parce que le psychopathe, c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe, finalement?
Un psychopathe, c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, qui, en fait, sait ce qu'est le bien et le mal, mais n'a pas du tout envie de suivre une quelconque morale. Donc, c'est quelqu'un qui assouvit ses pulsions, principalement, qui ne prend pas en compte les lois, qui ne prend pas en compte les désirs des autres et qui manque totalement d'empathie. On parle de la froideur du psychopathe. C'est aussi quelqu'un d'impulsif, qui a des crises de colère. Alors ça, il en avait aussi d'ailleurs dans sa famille. Donc il avait déjà un profil quand même un peu particulier. On parlait tout à l'heure du fait qu'il mesurait la hauteur de l'herbe. Il a aussi mis des chiens en fourrière. Enfin, il essayait de jouer au petit chef, en quelque sorte.
Mais on sait ce qu'il a dans sa tête, on sait aussi ce qu'il a dans son sac. Des cordes, des cordelettes. Pourquoi est-ce qu'il est fasciné par les cordes et la pendaison? Ça, il évoque des pulsions sexuelles bizarres dans son enfance.
Oui, alors il avait trois frères qui n'ont pas du tout été comme lui. Ils ont une enfance tout à fait sans problème. Lui, dès l'âge de 8-9 ans, on sait qu'il a commencé à fantasmer de manière très très violente. En fait, où il a commencé à tuer donc des animaux. Par la suite, quand il a été militaire, il a été basé au Japon. Et là, il en aurait appris beaucoup plus sur le bondage, puisque là-bas, c'est quelque chose d'assez traditionnel. C'est même un art martial, en fait, grâce auquel on appréhende des criminels. Donc c'est assez ironique. Mais c'est aussi une espèce de mode fantasmatique. C'est quelque chose de sexuel aussi.
On fera une émission sur le bondage, Stéphane, ne vous inquiétez pas, je vous vois me faire des grands signes. Oui, on prendra le temps un jour. D'autres tueurs ont utilisé le même mode opératoire, comme ça, avec des cordelettes
Non, c'est vraiment... lui, c'est vraiment... c'est très spécifique. Je pense que c'est le premier tueur en série dont on a su immédiatement qu'il y avait une composante fantasmatique, sexuelle. Ce qui est toujours le cas pour les tueurs en série, sauf que d'habitude, ça passe un petit peu plus sous le radar.
Mais comment vous expliquez que la police ait mis 30 ans avant de l'appréhender ? On n'avait pas d'ADN à cause des manques de moyens, ou parce qu'il avait une double vie et que tout ça était bien segmenté ?
Oui, c'était un petit peu les deux, parce qu'en fait, on a commencé à utiliser l'ADN et à savoir l'analyser sur les scènes de crime. À partir de 1985-86 à peu près. Et puis il y avait ce côté bon père de famille qui le rendait assez insoupçonnable.
En fait. Alors, il a vraiment peur de rien, il se joue de la police, on l'a dit, en écrivant des lettres pour revendiquer ses crimes. Et ça, c'est un trait classique chez ce type de tueur, une part de narcissisme forcément associée aux tueurs en série.
Oui, tout à fait, ils sont très, très fiers de ce qu'ils font, paradoxalement. Et puis alors, il y a quelque chose qui m'agace un peu, on parle toujours de l'intelligence des tueurs en série façon Hannibal Lecter, mais c'est quand même beaucoup un mythe. Il était stupide, c'était un type tout à fait médiocre qui n'avait pas réussi à suivre des études. La plupart des tueurs en série sont quand même assez faibles d'esprit, finalement.
Et Stéphane raconte aussi qu'il envoie une disquette informatique aux policiers à un moment pour un tueur si calculateur pendant longtemps. C'est vraiment une erreur de débutant, non ?
Oui, parce que sur la disquette en question, il avait enregistré même son nom. De président de la paroisse locale.
Il voulait se faire prendre, là, c'est pas possible.
Non, je ne pense pas. Je crois qu'il était vraiment, bête, quoi. Et en plus, la disquette avait été faite sur l'ordinateur de la paroisse, donc c'était très facile de le retrouver, effectivement.
Oh, le champion.
Un vrai champion, oui. Dans votre livre, Dans la tête des tueurs, vous vous intéressez aux profilers, ces experts du comportement humain créés par le FBI, qui tentent de comprendre les tueurs en série. Les comprendre, c'est réussir à éviter qu'ils passent à l'acte ou qu'ils repassent à l'acte, parce que souvent le mal est déjà fait.
Oui, c'est un moyen d'essayer de les arrêter, parce que le propre des tueurs en série aux États-Unis, c'est qu'ils passent d'un état à l'autre où les lois changent et où on peut difficilement les tracer. Donc à partir du milieu des années 80, on a eu la possibilité donc d'utiliser l'ADN, mais aussi on a commencé à faire des banques de données qui permettent de suivre en fait les crimes les plus violents et leurs auteurs d'un état à l'autre. Donc ça a complètement changé la donne et aujourd'hui, c'est plus simple quand même de traquer des tueurs multirécidivistes.
Alors, Dennis Rader, c'est l'un des tueurs en série qui apparaît régulièrement dans la série Mindhunter, qui est sur Netflix.
Where did he get the cord he tied you with?
La corde pour te ligoter, il l'a trouvée où?
From his pocket.
Elle était dans une de ses poches. Je le regardais quand il m'attachait les pieds. Il faisait les nœuds très vite.
Comme s'il l'avait déjà fait.
Mm-hmm. Was he rough?
Il était brutal, angry, énervé.
He was almost...
Il était presque...
Gentle.
Attentionné.
Quand on sait que Dennis Rader est toujours vivant et en prison, il doit vivre ça comme une forme d'ultime consécration, non ? C'est finalement ce qu'il recherchait depuis le début.
Effectivement, ce qu'il cherche, c'est la notoriété, c'est la renommée. Il parle de ses crimes comme étant une œuvre. Bon, voilà.
Oui, il n'a aucun remords. Hein,
aucun, absolument aucun.
Ah, il n'en a manifesté aucun ?
Non, jamais. Absolument.
Même pour sa femme, ses enfants.
Oui. Alors, sa femme a changé d'adresse, de nom, est partie immédiatement après son arrestation. Mmh.
Et ses enfants ?
Sa fille, beaucoup plus. Elle a écrit un livre pour essayer un petit peu d'alléger le poids de tout ça, parce qu'elle a eu un syndrome post-traumatique à la suite de l'arrestation de son père. Et elle a eu l'impression en fait, d'avoir vécu un mensonge tout au long de sa vie, ce qui est bien normal. Quoi. Quant à son fils, il ne s'est pas exprimé. Donc, voilà.
Mais merci beaucoup, Véronique Chalmet, de nous avoir éclairé sur ce tueur... assez captivant quand même, parce que c'est une psychologie particulière. Je rappelle votre livre « Dans la tête des tueurs » paru aux éditions Hors Collection.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont tenu la corde. Après Édouard Alfred Martel et Dennis Rader, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un tandem d'alpinistes qui ont tenu la corde mais qui l'ont lâché aussi à un moment.
Ne spoilez pas, Stéphane. Mais oui, si leur histoire a inspiré d'innombrables livres et même plusieurs films, c'est qu'il s'est passé des trucs au cours de leur expédition en 1985 dans la cordillère des Andes. Je vous raconte aujourd'hui l'aventure de Simon Yates et Joe Simpson. Nous sommes donc au Pérou en 1985. Deux alpinistes anglais, donc par définition sur deux, entament l'ascension du Sula Grande, 6300 mètres de roches piégeuses réputées pour ses avalanches fatales. Simon et Joe ont 21 et 25 ans. Ils sont athlétiques. Visiblement, la Smartbox sensation forte et canyoning dans les gorges du Verdon qu'ils ont eu à Noël n'a pas étanché leur soif d'aventure. Joe Simpson écrira bien des années plus tard dans son livre La mort suspendue: je n'aime pas l'alpinisme parce que c'est dangereux ou effrayant, mais parce qu'il y a un prix à payer si vous vous trompez. Et oui Stéphane, la montagne ça vous gagne, mais parfois aussi ça vous perd. Au pied du Sula Grande, ils sont en fait trois, mais le troisième larron, un certain Richard, n'ayant aucune importance dans le récit, nous l'appellerons tout simplement le dégonflé, puisque quelques heures seulement avant de se lancer dans l'ascension qu'ils ont préparée tous les trois, Richard se ravise et déclare « David, vous ferez toutes les voix anglaises du récit, je traduirai. »
Well, this mountain is far too big. I think I'd rather stay here and shag a few locals while you risk your life up there.
Bon sang, cette montagne est bien trop grosse. Je vais plutôt rester ici et sympathiser avec quelques jeunes filles du coin pendant que vous risquez votre vie là-haut. C'est donc en duo que Simon et Joe s'attaquent au pic péruvien. La montée se passe plutôt bien, si tant est qu'on considère que des rafales de vent à plus de 150 km/h et une température de moins 30 degrés puissent être quelque chose de bien. Comparé à ce qui les attend, en tout cas, c'est vrai, c'est une matinée peinard au Spa Clarins du Sofitel des Sawira. Nos deux alpinistes arrivent au sommet sans trop de difficultés, un peu comme Stéphane, le temps de faire quelques photos, de s'auto-congratuler, comme savent si bien le faire les Anglais.
We did it, Simon. Well said, Joe.
Et c'est déjà l'heure de la descente.
God damn it, Joe, I'm starting to be hungry. Let's find a pub.
Je commence à avoir faim, trouvons vite un pub, se dit Joe. Mais voilà, nos rosbifs aventureux ne le savent pas encore, mais redescendre de cette montagne va s'avérer bien plus dur que d'y monter. Les conditions météo se dégradent, un épais brouillard se lève. Très vite, on n'y voit pas plus que dans le cul d'une vache.
Oh my God, Simon, we don't see more than a cow's ass.
Oui, j'ai tenu à être très très précis sur la restitution des dialogues, c'est très important pour le récit. Soudain, une avalanche, les voilà piégés au cœur du glacier. Puis voilà que Joe tombe.
Oh!
La corde se tend, c'est Joe. La corde se tend puis disparaît. Joe est mort ? Non. Il est en vie, mais il souffre le martyr 50 mètres plus bas. Je suis tombé tête la première. Ma jambe droite était bloquée en arrière. Mon tibia avait frappé dans mon fémur et le choc avait continué jusqu'à mon articulation du genou. J'avais déchiré mon ligament croisé antérieur, endommagé mon nerf fibulaire et détruit le cartilage des deux ménisques. Je m'étais aussi fracturé le talon et la cheville. La douleur était atroce. Ah bon ? Quelle chochotte ! Ah, ces Anglais, Stéphane, ils sont en sucre !
Come on, you're not in sugar !
Lui crie l'autre. Joe tente alors de se reprendre. Dans son livre, il raconte qu'il tente d'apaiser sa douleur en se frappant la tête dans la neige. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas. Là, c'est l'heure du premier choix pour Simon. Soit il laisse son pote en kit crever, soit il va le sauver quitte à y laisser sa propre peau. Il choisit la deuxième option, rejoint les clopés, rattache la corde et repart en le traînant derrière lui. La tempête, hélas, gagne en intensité et lors de l'ultime descente en rappel qui doit les mener au camp de base, la corde se tend à nouveau. Ce con de Joe est encore tombé. Au-dessus de lui, Simon tient la corde de toutes ses forces, mais le poids de Joe, qui a visiblement abusé des kidney pie avant de partir, l'entraîne vers le bas. Que faire alors ? Le dilemme est terrible, car vous connaissez le problème avec le froid. On se retrouve souvent...
avec un tout petit pénis au repos.
Non, mais non, non. Là, à l'instant T, c'est pas le problème qui chiffonne Simon. Non, non, c'est le dilemme de savoir s'il sauve sa peau. Et pour ça, il doit couper la corde et condamner son ami. Soit il décide de jouer les héros et de se sacrifier avec lui. Stéphane, projetons-nous un petit peu. Nous sommes tous les deux en pleine montagne, en expédition, tous les deux encordés. Vous portez une combinaison en jacquard. Je suis au fond d'un ravin en mille morceaux. Que faites-vous à la place de Simon ? Mourir avec moi ou vivre sans moi, Stéphane ?
Bah, je vais d'abord essayer de vous sauver.
Mais comment vous allez faire ? Parce que vous ne pouvez pas tirer.
Non, mais je vais peut-être te couper la corde, aller chercher du secours et pour aller vous...
Le du Pérou ! Oui, alors bon, bref. Simon, lui en tout cas, en termes d'une réflexion bouleversante, finit par couper la corde.
Vous voyez ?
Ce n'était pas une bonne décision, mais une décision pratique. Je ne pouvais pas me payer le luxe de l'aspect moral. C'est impossible lorsque vous faites face à des questions de vie ou de mort. Je ne vois donc pas mon acte comme un dilemme éthique. En contrebas, Joe, lui, n'a rien capté de tout ça. Il est dans un état de semi-conscience, shooté par la douleur, proche du délire. J'étais un peu comme dans le même état que David Castello-Lopez quand il attend son Uber sur le trottoir après une soirée trop arrosée et qu'il croit qu'il est Robocop. Heureusement, Joe finit par se reprendre. Il se redresse péniblement, allume sa frontale et se met à chercher Simon.
Ouh, où êtes-vous ? On vous cherche partout.
Mais Simon ne répond pas. Peut-être est-il mort ? Ou l'a-t-il abandonné ? Ni l'un ni l'autre. Puisqu'au petit jour, rongé par la culpabilité, Simon cherche encore et toujours Joe, mais en vain. accablé, à bout de force, il finit par reprendre sa descente et arrive au camp de base, où il retrouve Richard, qui lui est bien. Il est bien, Richard, il est pépouze, il a rien branlé. On l'imagine bien en train de se faire dorer des chamallows autour du feu de camp. Simon casse assez vite l'ambiance en lui annonçant
« Stop eating marshmallows, you idiot, Joe is dead !»«
Fuck me !» répond Richard, qui en plus est vulgaire. En plus, c'est faux, Simon ne le sait pas, mais Joe est vivant, miraculeusement vivant. Quoiqu'en mille morceaux, il va réussir à descendre. Il lui faudra 4 jours, mais il va y parvenir. 4 jours sans nourriture, avec une jambe cassée. Pour boire, il suce la neige. Un beau matin, il aperçoit un truc rouge, c'est un feu. À côté du feu, que voit-il ?
Une tente !
Une tente, oui ! Il crie à l'aide. Bientôt, des bras le saisissent. Ce sont ceux de Simon. Joe est sauvé. Et vous savez ce qu'il dit à Simon ?
T'es qu'un pignouf.
Non, je ne t'en veux pas, Simon, tu as bien fait. Un mois plus tard, de retour en Angleterre, Simon se fait assassiner par la presse qui fait les gros titres avec l'histoire des copains de cordée. Tout le monde y va de son analyse. Simon est décrit comme un criminel, un déserteur. Eh bien, Joe prend sa défense. Dans son livre, il écrira « C'était irrémédiable, nous allions mourir. Simon s'est alors accroché à un espoir de survie. Est-ce que j'aurais moi aussi coupé la corde ? Si j'avais été dans la même situation que Simon, ça ne fait aucun doute. Tout est bien qui finit bien. » Et à ce jour, Stéphane, Simon et Joe sont toujours vivants, toujours amis. Et pour cette chronique, je les ai contactés. Je leur ai notamment demandé s'ils pensaient que vous, Stéphane, vous auriez coupé la corde ou qu'au contraire, vous auriez tout fait pour me sauver. Simon m'a très clairement répondu.
Burn, he would have cut the rope and leave you like a dog. 100% sure.
Oh, il aurait sacrifié sa vie pour venir à votre rescousse. C'est ce que je veux comprendre de cette phrase. Merci Stéphane, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes un vrai ami.
Je crois que la traduction est assez fausse.
Oui, c'est vrai, probablement. Vous m'auriez laissé comme une merde, c'est ça ?
Non, mais je ne l'aurais jamais fait. Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Pour les remplacer, je vois 2 chroniqueurs qui tiennent la corde.
Oui Stéphane, même si l'un des deux est bizarre vu qu'il tient au bout de sa corde, un petit veau. Olivier Paul nous racontait le veau Orloff.
Ouais, une délicieuse préparation de veau. Attends, je vais vous raconter l'histoire et puis je vais aussi vous donner la recette évidemment de l'authentique veau Orloff.
Et tout de suite, David Castello-Lopez remonte aux origines de quelque chose qui fait vraiment notre quotidien, le frigo.
Oui, le frigo, complètement. J'ai mis un certain temps à comprendre que j'étais une personne obsessionnelle.
On a compris plus vite que toi.
Voilà, pas obsessionnel genre mais moi je suis grave obsessionnel quoi, j'adore les Non, pathologiquement obsessionnel. C'est-à-dire, en fait, j'ai des tocs qui se manifestent par exemple sous la forme d'un besoin de connaître en permanence les dates de péremption de tous les produits qu'il y a dans mon frigidaire. À l'heure où je vous parle, par exemple, oui. Et je vous jure que je ne suis pas allé regarder, je sais que j'ai des yaourts Activia, hein, périmés depuis le 29 décembre. J'ai
aussi
du beurre. Vous n'êtes pas obsessionnel, alors sinon ils seraient déjà à la poubelle.
Ah non, c'est une obsession qui est de connaître la date de préemption, pas de toucher.
Vous les laissez
et je les...
Non mais
je
vous savez que les yaourts,
toujours.
Vous pouvez les manger
mais
bien
voilà,
après la date
exactement.
De préemption. Il n'y a aucun problème.
Exactement. Alors c'est pas, tout ça, ce n'est pas des informations qui prennent énormément de place dans ma tête, mais elles sont là, en toile de fond, de façon permanente, et c'est comme une sorte de petit stress. Vous voyez, tout ça pour dire que le réfrigérateur, pour moi, c'est pas qu'une machine à faire refroidir les choses, c'est aussi un compagnon de névrose. J'ai donc nécessairement eu envie de connaître ses origines. Bon, alors avant tout, je vais parler des bactéries. Les bactéries, hein, et c'est pas vous qui direz le contraire, Mathieu, ce sont des petits êtres fourbes qui nous rendent la vie très difficile. Je sais pas pourquoi je vous ai choisi,
non,
vous,
plutôt
que quelqu'un d'autre, ni votre rapport particulier avec les bactéries, mais c'est pas grave. Ces bactéries, elles ne se sentent bien, si vous voulez, que si la température leur convient. Et la température qui leur convient, c'est entre 4 degrés et 60 degrés. C'est là qu'elles se sentent bien et c'est ça qu'on appelle en sécurité alimentaire la zone de danger. Au-delà de 60 degrés, les bactéries elles commencent à mourir et en dessous de 4 degrés, elles sont un peu léthargiques. Donc si vous voulez conserver vos aliments correctement, il faut que votre nourriture soit stockée soit au-delà de 60 degrés, soit en dessous de 4. Bon, le truc c'est que au-delà de 60 degrés, vos aliments ils continuent à cuire, ils sont moins bien. Donc la meilleure option, c'est quand même de stocker la nourriture à basse température. Sauf que créer du froid, c'est pas facile. Longtemps, la seule option, c'était la glace. On prélevait la glace là où la nature l'avait formée et on transportait cette glace dans des endroits où on en avait besoin pour refroidir des trucs. On pouvait la conserver un certain temps dans des copeaux de bois, vous voyez. Et il y a pu avoir comme ça, pendant une bonne partie du 19e siècle, un commerce mondial de la glace. En France, on importait de la glace de Norvège. À Cuba, on importait de la glace de la Nouvelle-Angleterre.
Mais comment elle ne fondait pas pendant le voyage?
On a fait des progrès dans l'isolation qui a fait qu'on a pu transporter cette glace. Mais on avait de la glace à Cuba qui venait du Connecticut.
Et on avait des glacières aussi.
Exactement, des armoires à glace. Il y avait des trains de transport réfrigérés pour la nourriture avec des compartiments de chaque côté on mettait d'énormes blocs de glace et qui permettaient que le milieu soit froid. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des gens qui essayaient d'inventer une façon de fabriquer du froid à la demande, froid artificiel. Et le père de toutes ces tentatives, c'est un médecin écossais qui s'appelait William Cullen et qui a démontré au XVIIIe siècle que lorsqu'une substance s'évapore, elle absorbe de la chaleur et donc elle crée du froid. Exemple, si vous léchez votre main, faites comme ça là, et que vous soufflez dessus,
tout ça, David,
c'est pas
très
bon, je me l'auto-fais et je me suis lavé les mains. Et que vous soufflez sur la main,
ça
vous
fait froid.
Avez... Il se passe quoi ? C'est froid à l'endroit où vous avez léché. Pourtant, au départ, votre salive, votre soufre et votre main, elles sont exactement à la même température. Ce qui se passe, c'est que chaque molécule de salive qui s'évapore a pris un peu de chaleur à la salive qui reste sur votre main et qui devient donc toute froide. Eh bien, les frigos, ils fonctionnent exactement sur ce principe, en contrôlant l'évaporation d'une substance à l'intérieur d'un tube qui passe près des aliments et qui donc est tout froid. La première fois qu'on a réussi à faire ça commercialement, c'était au milieu des années 10. Mmh. Mais le premier frigo grand public qui a eu du succès, il date de 1927. Il était fabriqué par General Electric et il s'appelait le GE Monitor Top. Il coûtait l'équivalent de presque 7000 euros aujourd'hui. Il y a encore des frigidaires à 7000 euros.
C'est ceux qui vous disent justement si les produits sont périmés, qui recommandent pour vous.
Exactement, et qui ont une double armoire comme ça. Enfin, c'est... Mais disons que là, c'était le seul. Si vous vouliez un frigo, le premier prix, c'était 7000 euros. Et bien sûr, le moment où le frigo s'est généralisé, c'est au moment où tout l'électroménager s'est démocratisé, c'est-à-dire après pendant les 30 Glorieuses, pardon, juste après la guerre. Alors aujourd'hui, les frigos, ils ont plus super bonne presse quand même parce que c'est pas bon pour la planète. Hein, c'est pas bon pour la planète. La réfrigération, c'est quand même 6% de la consommation d'énergie dans le monde. Si on rajoute les 8% de l'air conditionné,
ça fait
quand même cher payer pour le froid.
On va pas s'arrêter de bouffer des activières.
Eh ben si, on peut choisir des choses qui se périment pas. Hein. Non seulement vous aiderez la planète, et en plus, il n'y a pas de date de péremption à souvenir, à mémoriser.
Vous donc,
du coup, je
me
sentirai un petit peu mieux. Quoi.
Merci beaucoup, David Castello-Lopez.
On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et un frigo, c'est bien joli, mais encore faut-il avoir quelque chose à mettre dedans. Mmh. Un veau Orloff. Pourquoi
par exemple,
pas
ouais.
Alors racontez-nous cette recette.
Ouais, parce que moi, je ne vais pas le garder deux mois, mon filet de veau. Je vous garantis que je vais le faire Orloff bien avant et peut-être dès ce soir d'ailleurs. Alors, je parlais de cette recette qui est une recette que j'aime beaucoup et qui a été un peu dévoyée, on va dire, aujourd'hui. Parce que si vous allez chez un boucher et que vous demandez du veau Orloff, on va vous donner un filet de veau dans lequel on a glissé des tranches de fromage et qu'on a en général bardé de lard. En fait, c'est une version un petit peu moderne, mais qui n'a rien à voir avec la recette originale que je trouve personnellement bien meilleure. Un peu plus compliquée à faire, mais bien meilleure. Alors tout d'abord, d'où vient cette recette de veau Orloff ? Alors Orloff, ça pourrait être le nom d'un méchant dans Tintin ou dans Black et Mortimer, c'est un nom qui fait un petit peu peur comme ça. Alors on le doit à Alexei Fyodorovitch Orloff, qui était un général de l'armée russe, ambassadeur et président même du Conseil des ministres russes au XIXe siècle. Et comme beaucoup de dignitaires russes, à l'époque, il s'était adjoint les services d'un cuisinier français, parce que c'était chic, et puis à mon avis surtout, c'était meilleur. Alors son cuisinier, en l'occurrence, c'était un certain Urbain Dubois, qui était un chef originaire du sud de la France, qui était monté à Paris, et qui est donc entré au service de ce comte puis prince russe. Et ensuite, d'ailleurs, il a même terminé sa carrière auprès du Kaiser Guillaume Ier en Allemagne. C'est-à-dire quand même qu'il faisait bien rayonner la gastronomie française. Il était auteur aussi de quelques livres. C'est un type qu'on a un peu oublié, mais qui a eu une belle carrière de cuisinier, qui a beaucoup fait pour la promotion de la gastronomie française. Alors il a inventé ce plat pour son employeur, donc Orloff, à qui il a donné le nom. Alors qu'est-ce que c'est que ce veau Orloff ? C'est un habile mélange de veau braisé, de mornay, de soubise et de duxelles. Ah, ça demande un petit peu d'explication.
Duxelles de champignons ?
Oui, exactement. Alors, pour le faire, je vais vous expliquer tout ça. Donc, rôti de veau ou une selle de veau que vous allez braiser. Alors, braiser, c'est cuire à l'étouffée, c'est cuire dans une cocotte avec un peu de liquide, un peu de fond de veau, un peu de vin blanc, dans le four, pendant, suivant la taille, sur un kilo, un kilo deux, il faut une petite quarantaine de minutes de cuisson. Pendant ce temps, vous allez faire une béchamel, parce que la béchamel, elle va servir de base à la mornay et à la soubise. Alors, qu'est-ce que la mornay ? Qu'est-ce que la soubise ? Alors, la mornay, c'est une béchamel dans laquelle on a rajouté du fromage, en l'occurrence du comté qu'on aura râpé. Donc ça fait une sauce mornay. Je vous rappelle, la béchamel, c'est tant pour tant de beurre et de farine. Mmh. On fait ce qu'on appelle un roux, et ensuite on mouille avec du lait. un peu de sel, un peu de poivre. On rajoute donc là le gruyère et ça nous fait une mornay. Alors une soubise, c'est également une base de béchamel dans laquelle on a rajouté une purée d'oignons qu'on a fait compoter très doucement comme ça, dans un petit peu de beurre, avec une petite pointe de sucre, sel, poivre. Et quand l'oignon est bien compoté, on rajoute la béchamel, on mixe le tout et ça nous fait une sauce soubise.
Et vous avez des gens pour vous aider à faire tout ça?
Non, mais c'est pas très compliqué quand même pour une personne.
Et
alors à côté, vous allez faire aussi une petite duxelle de champignons. C'est les champignons de Paris taillés très très finement, revenus dans du beurre. Et donc une fois que vous avez votre viande qui est cuite, vous faites des entailles dedans. Et alors à l'intérieur, vous allez mettre de la duxelle de champignons, vous allez mettre un petit peu de la soubise. Et quand vous aurez fait ça, tous les 3-4 cm, vous allez napper le tout de la mornay, donc de la sauce au comté. Vous remettez au four et vous faites gratiner. Ça vaut quand même le coup de s'embêter un petit peu, non ?
Il faut qu'il y ait un défibrillateur pas loin, mais c'est sûr que c'est une recette qui fait envie.
Mais ça fait très envie.
La soubise, c'est une mornay auquel on rajoute de la compotée d'oignons ?
Non, il n'y a pas de fromage.
D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de mornay dans votre recette.
Ce sont toutes des déclinaisons de la béchamel.
Oui. Ouais. Pourquoi pas faire une seule et unique béchamel ?
Ce serait trop simple.
Oui.
Où serait le plaisir, mon cher Stéphane ? Il y a quand même la joie de cuisiner pendant deux bonnes heures.
Deux bonnes heures.
En écoutant un podcast de l'émission, par exemple.
Par exemple.
Très bonne idée, Olivier. Cette autopromo.
C'est ce que je fais toujours.
Tombe à pic. C'est ce que vous voulez écouter vous-même, d'ailleurs. Vous dites qu'est-ce que je suis bon. Merci, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, après le Orlov, la roulette russe pour des questions comme ça qui peuvent tuer. Et qui tombe au hasard, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est David. Et oui, c'est tombé sur vous, la première question.
D'accord.
Alphonse Allais fut un journaliste et un humoriste. On en a aussi à Europe 1. Il fut inventeur. Il a déposé le brevet d'un vélo dont la roue arrière était motrice. Vrai ou faux?
C'est le principe. Enfin, il me semble que tous les vélos ont une roue arrière motrice. Donc il a inventé des trucs pour rire, est-ce qu'il a inventé des trucs pour de vrai? Puis surtout non, c'est le vélo sans doute, je veux dire non.
Bien, il n'est pas tombé dans le piège.
Hein.
Mais le 7 mars 1881, il a déposé le brevet du café soluble lyophilisé.
Ah oui, ça n'a rien à voir, du coup, effectivement.
Alors, Olivier, on parlait des Russes, mais là, je vais vous parler d'une autre guerre, celle de Paris assiégée en 1870 par l'armée prussienne. Pour continuer de faire passer des messages, depuis la province, on utilisait des petits réceptacles sphériques en métal grâce à la Seine. On a appelé ce procédé les boules de moulin. C'est vrai ou c'est faux?
Donc on mettait des petites boules, on mettait un message dedans, on le jetait dans la Seine et hop, elles flottaient, on les récupérait. Et on pensait que l'ennemi, lui, il pouvait pas les voir. Il voyait pas passer les boules.
Il avait peut-être autre chose à faire, il assiégeait Paris.
C'est peut-être crypté. Peut-être crypté.
C'était peut-être crypté, oui. Ouais, je dis que c'est faux, allez hop.
Mais si c'était vrai, il fallait... Bon, la difficulté, vous l'avez noté. Il fallait qu'elle soit assez lourde pour qu'elle ne flotte pas. Parce que sinon, évidemment, les Prussiens les auraient confisquées. Oui. Ni trop lourde pour qu'elle ne s'enfonce pas dans la vase. Et elles étaient censées être récupérées à Paris avec des filets. Bon, ce fut un échec total. Mais on en a retrouvé bien plus tard avec les messages. Et là, ça a une grande importance historique. Mathieu, on l'a déjà dit ici, Nicolas Chauvin fut un soldat du 19e siècle qui a donné son nom au chauvinisme. Il est enterré au Père-Lachaise. En face d'Edith Piaf. C'est vrai ou faux?
Alors ça, je n'aime pas du tout cette question, parce qu'on ne peut même pas réfléchir. En fait. C'est vraiment une question qui n'a pas d'intérêt en termes de réflexion.
Si vous réfléchissez bien,
Chauvin
quand on avait parlé
Piaf.
De Nicolas Chauvin, on avait parlé de sa vie, de son œuvre.
Je dirais que c'est faux.
Bien. Parce qu'on n'a effectivement aucune preuve que Nicolas Chauvin ait vraiment existé.
Donc il ne peut pas être enterré au Père
Lachaise. Sa seule trace, au fond, ce n'est pas tellement au cimetière du Père Lachaise, c'est plutôt dans les pièces du 19e siècle où on parle de lui, notamment dans la pièce La cocarde tricolore des frères Cognard. Alors, nous restons en lice Mathieu Noël et David Castello-Lopez. Alors, la question qui départage. La réponse la plus proche remporte donc la lutte finale. Alors, je parle d'expression « le Moyen-Âge ». Elle est apparue pour la première fois en latin, on disait « media tempestas », soit « saison intermédiaire ». Mais c'était en quelle année qu'est apparue cette notion de Moyen-Âge? Elle est apparue en latin.
Oui, mais elle aurait pu apparaître en latin au XXIe siècle. Hein. Enfin, mais je ne pense pas qu'elle soit contemporaine du Moyen-Âge, ça n'a pas de sens.
C'est moyen par rapport à ce qui suit. Voilà.
Exactement, forcément, et forcément une avancée dans le temps.
En quelle année est apparue cette saison intermédiaire? Alors,
moi je dis 1512.
1578.
C'est vous qui gagnez. 1469, c'est donc Mathieu Noël qui gagne.
Et moi, je me suis dit vraiment que ce serait après la Renaissance. Non, avant. Quoi. Voilà.
Mais par la suite, toujours en latin, on a dit Medium Aevum. Ça se rapprochait encore plus du Moyen-Âge. Oui. Et là, c'était en 1604.
Et là, j'aurais gagné. Ouais. Parce que c'était vraiment le moment où ça s'est imposé. Donc, moi, c'est ça que j'avais en tête.
N'essayez pas de salir mes victoires, elles sont si rares.
1469, voilà, on a tous appris
quelque chose d'intéressant. Et c'était une magnifique émission. On rendait hommage à ceux qui ont tenu la corde, à différents sens du terme. Vous, on sait quel est votre personnage préféré, je ne vous demande pas. C'est celui qui avait des petites cordelettes et qui étranglait les gens. J'ai des vidéos de vous pendant ce récit. Vous êtes là avec votre regard lubrique.
Vous bichez.
Ah, c'est vraiment terrifiant, Stéphane.
Mais vous savez, dans ce cas-là, vaut mieux éprouver du plaisir à raconter des récits sordides, je pense à notre ami Andelat, plutôt que le faire soi-même.
Ah oui, c'est toujours mieux. Ça, c'est sûr. Vous vous défendez bien là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que demain. Qu'est-ce qui se passe demain, Stéphane? Vous connaissez le programme, probablement.
Demain, il y a un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre.
Pardon. Oui.
Demain, arrête ton cinéma. On réunit des comédiens recalés. Hattie McDaniel, connue pour son rôle d'esclave dans Autant que n'importe le vent, qui lui a été beaucoup reproché dans la communauté noire américaine. Puis Roger Duchesne, un jeune premier du cinéma français qui a mal tourné, avant de ne plus tourner du tout.
Et moi, je vous raconte Vincent Gallo. Qui est Vincent Gallo?
Oui, tout à fait.
C'est un artiste, un comédien, un réalisateur un peu culte autour des années 90-2000, et qui a complètement disparu. Et vous verrez pourquoi, des prises de position assez étonnantes, pro-Trump et anti-femme, c'est assez étonnant de voir la déchéance de celui qui fut un acteur culte.
C'est bien, c'est un beau programme. Non, mais je me réjouis. Non, mais j'ai hâte d'être à demain.
Sinon, je peux vous faire Louis la Brocante si vous voulez.
Non. J'ai hâte de découvrir votre Vincent Gallo. À demain, Mathieu, à demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.